Donc effectivement, nous allons commencer par ce que le web n'est pas. Alors ce que je... Ah oui, donc Aurélien Bénel, pardon. Donc Aurélien Bénel, je suis informaticien. Je travaille à l'Université de technologie de Troyes dans une équipe interdisciplinaire qui s'intéresse aux technologies de la coopération. Donc ce que le web n'est pas, et je pense que c'est nécessaire de le préciser, c'est que ce n'est pas un hypertexte. Alors ça semble très très curieux, hein, parce que vous savez tous que le protocole du web il s'appelle HTTP, et que les deux premières lettres veulent dire hypertexte. Si vous arrêtez quelqu'un dans la rue et que vous leur demandiez ce qu'est un hypertexte, et puis même dans un laboratoire d'informatique, bah, très probablement que ce que les gens vont vous dire, c'est ce qu'ils savent du web. Hein. Donc, on est dans une page, on clique sur un lien, la page est remplacée par une autre page. Bah, ça, pourtant, ce n'est pas de l'hypertexte. Donc, ce que je vous propose dans cette première partie, bah, c'est de comprendre ce qu'est un hypertexte, voir ce que l'on perd, entre guillemets, dans le fait que ce ne soit pas un hypertexte, et voir si finalement on peut sauver le web et essayer d'en faire un hypertexte. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Alors, le web qui n'est pas un hypertexte, ce n'est pas moi qui le dit, hein, c'est Ted Nelson qui est l'inventeur de la notion d'hypertexte. Donc on peut lui faire un peu confiance sur le sujet. Alors, donc une petite citation, hein, je vous laisse la lire, une citation très, très, très acerbe, hein, donc un peu méprisante, hein, pour les techniciens qui n'ont absolument rien compris à ce qu'était l'hypertexte, qui sont passés à côté, et qui ont finalement fait la forme la plus triviale d'hypertexte que l'on pouvait imaginer. Donc essayons de voir un petit peu ce qu'est l'hypertexte. D'abord, allez voir un précurseur de l'hypertexte. Donc ça nous amène dans les années 45, un certain Van Warbusch, qui est le conseiller scientifique du président américain. Donc 45, la fin de la guerre, il y a eu une course à l'armement, très très lié à de la recherche scientifique, course à l'armement qui va continuer ben, pendant toute la guerre froide. Et selon ce conseiller scientifique, ce qui va être vraiment déterminant dans les années qui viennent, c'est la recherche scientifique. Et donc il s'agit pour lui de mécaniser les professions intellectuelles de la même manière que l'on a mécanisé le travail dans les usines. Alors voilà ce qu'il imagine, hein, donc une mécanisation du bureau de l'intellectuel. Alors en passant, hein, on parle encore d'ordinateur de bureau, hein, donc on n'est pas si loin. Alors là, il n'est pas question d'un ordinateur, hein, les ordinateurs sont encore très gros, on a du mal à les imaginer dans chaque bureau. C'est plutôt un système à base de microfilms, hein, c'est ce que vous voyez ici. Donc si on regarde l'interface de ce bureau mécanisé de l'intellectuel, bah, la première chose qu'on voit, ce sont deux écrans. Alors ça, c'est très intéressant. Pourquoi deux écrans ? Ben ça vient d'une observation toute simple, hein, c'est que quand vous allez sur le bureau d'un intellectuel, en général, il y a des papiers et des livres absolument partout. Et ça, ce n'est pas juste parce qu'ils ne sont pas ordonnés, c'est parce que c'est vraiment dans le principe même du travail intellectuel que de comparer les sources, de les mettre en relation. Une telle source me fait penser à telle autre source. Deuxième chose intéressante, c'est ce que vous avez ici, qui serait un peu l'équivalent aujourd'hui d'un scanner. C'est ce qui va nous permettre d'ajouter de nouvelles sources en fait, dans notre système. On est dans un corpus de documents qui est ouvert. Hein. Donc on va pouvoir rajouter des pages de livres, mais aussi des notes manuscrites de l'intellectuel. Dernière chose intéressante, c'est cette série de petits interrupteurs. Alors, ce n'est pas un clavier, hein, ce sont des interrupteurs qui vont nous permettre finalement de coder des liens entre les pages qui sont affichées. Donc, telle page me fait penser à telle page. Et je vais vouloir garder ce lien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir finalement des parcours d'interprétation. Qu'on pourra rejouer, en fait, a posteriori. Donc, c'est pour ça que vous avez une petite manette, là, qui va nous permettre, voilà, de suivre le parcours d'interprétation que l'on a fait il y a un an, deux ans, mais aussi de suivre, pourquoi pas, les parcours d'interprétation d'autres intellectuels. Donc voilà, donc un petit peu la matrice de ce que sera l'hypertexte. Donc on arrive avec ce fameux Theodore Nelson. Donc avec le projet qui a donné le nom d'hypertexte et d'hypermédia, donc Xanadu. Donc le livre qu'il écrira ensuite a pour titre des machines littéraires. Alors à l'époque, c'est assez innovant, hein, parce que voir les ordinateurs non pas comme des computers, des calculateurs, des calculatrices, mais le voir comme une machine pour traiter des textes, c'est tout à fait nouveau. Et voilà ce qu'il imagine. Alors, il est important de préciser que ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'en informatique on appelle une maquette. Ça ne fonctionne pas. Donc il faudra des décennies et des décennies pour arriver à faire des prototypes qui marchent plus ou moins. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que Ted Nelson ne vient pas du monde de l'informatique. Il a une formation donc, en philosophie et en sociologie, mais il a bien compris que dans l'informatique, ce qui va être le plus intéressant, c'est finalement les structures de graphes, on pourrait dire. C'est ça qui permettra ben, justement de donner une forme finalement au travail intellectuel. Donc imagine qu'on a ben, là aussi deux textes en parallèle et qu'on va pouvoir faire des rapprochements entre des parties de ces textes. Alors il définit deux notions. Ce qu'il appelle le transpointing et la transclusion, qui seront les notions vraiment de base de l'hypertexte. Donc, pour commencer avec le transpointing, c'est ce que vous aviez sur l'image précédente, c'est je suis capable, dans mes sources, de définir des fragments. Et c'est bien le lecteur hein, qui définit les fragments, c'est pas l'auteur, c'est important. Et je vais pouvoir faire des liens avec d'autres fragments. Ces liens, bien sûr, n'ont pas de sens de navigation particulier. Hein. C'est un rapprochement, donc ça marche dans les deux sens. Et on peut vraiment lier des fragments avec plusieurs fragments et inversement. Donc la notion de transpointing. Vous remarquez au passage qu'il n'est pas du tout question dans ces liens de remplacer. Hein, il n'est pas question de cliquer sur un lien et que ça remplace la page. Puisque ce sont des rapports de similitude ou d'opposition. Et donc c'est tout à fait nécessaire de les lire en même temps. Deuxième notion, c'est la notion de transclusion. Alors transclusion, c'est... pour des informaticiens, c'est ce qu'on appellerait de l'inclusion par référence, comme on a des passages de paramètres par référence ou par copie, hein, c'est un petit peu pareil. C'est se dire que ce soit les fragments ou que ce soit les liens, je vais pouvoir les réutiliser. Donc j'ai une montée en abstraction qui est que, que ce soit des fragments ou des liens, ils sont transcludables. C'est-à-dire que je vais pouvoir les réutiliser dans des documents. Donc un document, finalement, c'est mettre bout à bout des fragments et des liens. Donc voilà ce qu'est un hypertexte d'après la définition de son inventeur. Alors, donc un projet très intéressant, très ambitieux, mais qui n'a jamais vraiment complètement marché. Et c'est là qu'interviennent les ingénieurs qui vont faire des systèmes qui fonctionnent, mais comme on va le voir, qui ne correspondent pas forcément au principe de base de l'hypertexte. Donc, premier exemple intéressant, c'est le projet qui s'appelle Augment de Douglas Engelbart en 1962. Donc à l'époque, il avait encore les cheveux un peu longs et puis la barbe. Son idée, c'est quoi? C'est finalement de détourner un dispositif très simple qu'on trouve à l'époque dans plein de bibliothèques, qui sont ce qu'on appelle les cartes poinçonnées. Alors, ce ne sont pas les cartes perforées qui fonctionnaient sur des machines. Là, c'est un système beaucoup moins cher. C'est un système qui est intéressant en plus en termes informatiques parce qu'en fait, il combine des données qui ne sont pas formalisées, qui peuvent être donc écrites à la main, et des données formalisées, qui peuvent être un peu tout et n'importe quoi, des mots-clés, etc., etc. Donc son idée, c'est finalement de voir si avec ce système très très simple, alors qui permet quand même des choses assez intéressantes, donc là aussi avec donc une technologie qui ne coûte pas très cher, hein, vous voyez, mais ça va nous permettre de faire des requêtes booléennes, en fait, sur ces cartes. Donc son idée, c'est de détourner ce système qui coûte très peu cher et qu'on trouve partout pour faire quelque chose qui ressemblerait à un hypertexte. Alors son objectif est très ambitieux, c'est d'étendre l'intellect humain, rien que ça, donc avec un équipement relativement simple. Donc voilà comment il imagine de fonctionner. Donc on a ces petites cartes, on a des morceaux de texte, par exemple, qui ne sont pas formalisés. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder d'abord le projet. Alors, il est dans une logique de gestion de projet. Donc, donc 1 plus 4, c'est le projet numéro 5. C'est le projet Augment. Donc on va typer ce qui se trouve sur la carte. Donc on va dire que c'est une spécification. On peut même dire si c'est validé ou pas. Et puis, on va donner un numéro d'ordre. Donc finalement, ce qu'on a là, 5.1.1.2, c'est un identifiant, l'identifiant de la carte. Là où ça devient intéressant, c'est que ce qu'on va pouvoir faire de la même manière d'autres cartes. Et l'idée, ce serait finalement de permettre effectivement des liens transversaux entre ces cartes. Donc comment faire? Alors il y a un peu deux manières de faire. Alors, vous remarquez qu'il y a d'autres zones qui n'ont pas encore été utilisées. Donc l'une des manières, ce serait de dire que cette nouvelle carte fait référence à l'ancienne carte. Donc on pourrait recopier les encoches qui sont là, donc ici. Ou inversement, recopier les encoches là qui sont et les mettre là. Alors ce qu'il propose, c'est de les mettre là. Donc c'est-à-dire que j'ai une carte qui me fait penser à une autre carte, et je crée le lien à partir de la carte d'origine. Alors, j'ai envie de dire, là, déjà, on a les problèmes du web. Pourquoi ? Parce que finalement, si on s'intéresse à un système décentralisé, où chaque auteur de carte était responsable de ses cartes, vous vous rendez compte que c'est celui qui a fait cette nouvelle carte qui serait obligé de modifier la carte qui l'intéresse. Alors, vous allez me dire, il aurait pu faire l'inverse. Il aurait pu faire l'inverse, donc faire donc une référence ici à l'identifiant qui est là. Donc effectivement, c'est sa propre carte, et d'une manière plus classique, comme un article scientifique, c'est dans votre article scientifique que vous faites une référence à un autre article. Ça aurait pu marcher, mais ce qui est très intéressant, c'est d'avoir le lien dans les deux sens. Et vous vous rendez compte que pour savoir ce qui référence cette carte-là, donc on serait obligé, avec les petites tiges que je vous ai montrées, d'avoir accès à l'ensemble des cartes. Donc si on est dans un système décentralisé, ça ne fonctionnera pas. Donc là encore, on est un peu au cœur des problèmes du web. La très grosse difficulté de faire des liens à double sens dans un système décentralisé. Alors, Douglas Engelbart ne va pas s'arrêter là. Donc il va proposer une version informatique de son système. Je vais passer très très vite sur ça, si ce n'est pour vous faire remarquer ce petit dispositif. Alors, à votre avis, c'est quoi ? Oui, vous avez dit ? Si, mais plus. Oui, c'est un système de pointage. Et c'est effectivement dans ce projet que sont testées plusieurs solutions de pointage, donc un sur le genou, qui est assez drôle, et donc un autre qui est la fameuse souris. Alors, vous connaissez la fin de l'histoire, vous savez que c'est la souris qui a été gardée. Chaque dispositif avait ses avantages et ses inconvénients. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que finalement, c'est pour faire un système hypertexte que la souris a été inventée. Et c'est dans ce système qui est présenté, alors je vous recommande d'aller voir les vidéos, c'est assez passionnant, on découvre que la plupart des principes d'interaction que l'on connaît ont été inventés à ce moment-là. Notamment, et c'est l'autre gros problème du web, l'idée qu'un lien, en fait, on cliquerait dessus et ça remplacerait la page que l'on est en train de voir. Alors qu'on avait vu au départ qu'un lien, ce n'est pas ça. C'est lire deux sources en parallèle et voir des rapports entre ces sources. Donc on avance un petit peu dans le temps et on arrive. Alors, donc là on a une conférence une démonstration qui est faite à la conférence sur l'hypertexte, donc avec un Tim Berners-Lee très jeune. Une présentation qui est faite devant des chercheurs en hypertexte. Alors on voit que certains sont intéressés, d'autres ont l'air un peu plus sceptiques. Donc présentation par des ingénieurs du CERN qui cherchaient avant tout une proposition pour gérer l'information. Donc le CERN, un centre de recherche européen, avec des gens du monde entier qui arrivent, qui font des expériences avec beaucoup de données à chaque fois. Et puis il reste quelques jours, un mois, et puis ils repartent. Et donc on se retrouve avec plein de données dont on ne sait pas quoi faire. Alors on voit bien qu'il peut y avoir des rapports avec les articles de recherche qui vont être faits après, etc. etc. Mais chacune de ces données sont dans des formats différents. avec des modèles de données différents, sur des systèmes informatiques différents. Voilà. Donc en tant qu'ingénieur, ils se disent, ben, finalement, qu'est-ce qui serait la forme commune que l'on pourrait trouver à toutes ces données et à tous ces documents? Ben, finalement, ce serait un hypertexte, alors, tout au moins ce qu'ils avaient retenu de ce qu'était un hypertexte. Donc je passe très rapidement, parce que ben, vous y passerez plus de temps avec Alexandre Monin. Juste, si on regarde les premières interfaces graphiques du web, quelque chose d'assez intéressant, c'est de voir que finalement, il n'y avait pas de séparation, et pendant très longtemps c'était le cas entre ce qu'on appelle aujourd'hui un navigateur et un éditeur de pages web, que c'était très facile de créer des liens. Donc finalement ça semble ne pas poser les problèmes dont je vous parlais, mais ça ne fonctionne finalement que parce qu'il y a très très peu de sites web au départ, et que finalement les personnes ont les droits de modification sur les sites web qu'ils consultent. Donc la limite dont je parlais, qui était que quand on va d'une page A à la page B, ben, il faut que l'auteur de la page B modifie la page A pour faire un lien, ben, le problème ne se posait pas vraiment. Et évidemment, c'est un peu paradoxal avec le caractère très décentralisé du web qui du coup posera ce problème. Donc, comment sauver le web? Alors, sur cette question du lien à double sens, on l'a vu finalement dès le système à base de cartes. Ce que je vous ai dit, c'est que ça aurait pu être traité, hein, mais à condition qu'on ait un moyen de calculer le tableau inversé, hein, des liens. Alors ça, comme on l'avait dit, ben, ça demande d'avoir toutes les cartes avec soi. Donc finalement, c'est ce qui existe, mais qui n'était pas prévu au départ. C'est en fait, chez Google, ben, il y a cette table de tous les liens, et cette possibilité d'inverser les liens, de savoir que la page B a un lien vers la page A. Donc c'est la fameuse commande de link qui permet de trouver les pages qui référencent un site. Alors vous voyez que c'est un peu paradoxal, hein, c'est que l'une des choses qui fait que l'hypertexte est sauvé, ben c'est finalement de casser le caractère décentralisé du web et de rassembler dans une seule base de données, alors, qui est un peu distribuée quand même, hein, mais de rassembler tout ça. Donc vous savez, d'ailleurs, je pense que ce calcul des liens inverses est au cœur des technologies de Google, hein. Dès le départ, il y a un mode de calcul qui s'appelle donc MapReduce, qui est une manière particulière de faire des calculs, ben, notamment pour savoir que si C a une référence vers A et B, ben, on va dire que A pointe vers C et que B pointe vers C. Et c'est ce qui va permettre le page rank. Hein, Donc, premier élément pour sauver le web et en faire un hypertexte, donc ce passage par une base centralisée, ce qui est un peu dommage. Deuxième chose assez intéressante qui apparaît autour de 2002, c'est ce qu'on appelle le trackback. Alors, donc là, on est un peu dans une surcouche du web, donc dans des types de sites web très particuliers qu'on appelle des blogs. Et l'idée est la suivante, c'est que sur un site de blog, donc on a un premier article, et sur un autre site de blog, donc on a une référence au premier article. Et quand on crée cette référence, le site qui est là va prévenir l'autre site que l'on a créé un lien. Donc on va d'une certaine manière dupliquer le lien et ça s'affichera comme ça. Donc une autre manière de régler ce problème des liens qui sont unidirectionnels, c'est finalement de les créer deux fois. Vous voyez que, donc obligation de se mettre d'accord sur une surcouche d'HTTP, hein, avec un protocole certes très très simple, hein, mais juste pour prévenir qu'on a fait un lien. Des problèmes évidemment très très rapidement de spam, parce que si on est capable de rajouter du contenu, donc vous imaginez que ça va être détourné. Donc une obligation de faire finalement une liste blanche des blogs auxquels on fait confiance, hein, que l'on connaît. Mais voilà, donc une manière de s'en sortir, mais dans un tout petit écosystème qui est l'écosystème des blogs. Une proposition plus ambitieuse par rapport à un système qui s'appelle Hyper-G, donc inventé à Graz, qui était donc un système hypermédia très 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 puissant, hein, avec la possibilité de faire des fragments, donc y compris dans une scène 3D, dans une vidéo, etc. Un modèle hypermédia très très puissant. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Et quand ce système va quitter donc l'université de Graz pour devenir un produit commercial, ils vont être obligés d'être compatibles avec le web, hein, parce qu'en 96, on commence quand même à pas mal parler du web. Donc ils vont faire une surcouche. Donc si vous voulez, de l'extérieur et vers l'extérieur, les systèmes Hyperwave seront considérés comme un bête site web, donc avec les mêmes limites, hein, les liens unidirectionnels. Mais à l'intérieur d'un site, là, on pourra avoir un modèle hypertextuel beaucoup plus riche. Alors c'est ce qu'on trouve d'ailleurs, de manière beaucoup plus simple, dans certains CMS, hein, les outils de gestion de contenu. Tant qu'on est à l'intérieur du CMS, on peut avoir des liens bidirectionnels. Et puis dès qu'on sort du CMS, bien sûr, on retrouve le web. Donc comment ça fonctionne? Alors, l'idée d'un document qui est une abstraction en fait entre des documents donc atomiques et des collections de documents, donc un système vraiment de réutilisation très 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 puissant, hein. À n'importe quel niveau, on peut réutiliser des bouts de documents pour en faire d'autres documents, et l'idée aussi qu'on peut réutiliser les encres et ces encres partent d'une encre source que l'on peut définir comme on veut. C'est n'importe qui peut définir une encre source. C'est ce qui est la grosse limite, si vous en souvenez, avec le web. Puisqu'on est obligé et puis les encres destination également, ce qui est une autre limite du web. Hein. Vous pouvez référencer des parties d'une page web, mais des parties d'une page web qui ont été prédéfinies par les auteurs. Je vous fais remarquer aussi, parce que j'en ai pas parlé avant, que ce système de composition de documents à partir de petits bouts de documents, donc ce qu'on avait appelé la transclusion, dans le web, elle existe, mais de manière extrêmement simplifiée. C'est ce que vous faites à chaque fois que vous faites référence à une image dans une page web. C'est bien de la transclusion, hein. Vous incluez par référence, mais vous êtes obligé d'inclure l'image en entier. Et c'est ce que vous faites, ou plutôt ce que vous ne faites pas, quand vous utilisez des frames, mais ça a été tellement mal pensé en termes d'interface homme-machine que très rapidement, on était obligé de bannir les frames, alors que c'était probablement l'une des parties les plus importantes en fait, du web. Donc vous voyez que depuis quelques temps, on essaie de voir si dans le web, on ne pourrait pas faire des îlots qui seraient avec un modèle hypertextuel plus riche. Alors, dans cette famille-là, On trouve les fameux wikis. Donc le premier s'appelle WikiWikiWeb de Ward Cunningham. Vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est un des promoteurs des méthodes agiles, par exemple. Et c'est clairement pour faire de la gestion de projet qu'il avait besoin d'une plateforme hypertextuelle très, très malléable. Donc WikiWiki, ça veut dire rapidement. Hein, il en avait fait d'ailleurs une première version avec avec KuiperCard, et puis voyant le web, il a fait une version web. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans les wikis, c'est une des choses qui peut-être est qui passe le plus inaperçu, c'est la manière dont on fait un lien dans le wiki. Alors, dans ce premier wiki, en fait, il suffisait de coller des mots avec des majuscules pour que ça fasse des liens. Et ce qui est très intéressant, c'est les liens qui ne pointent nulle part, en fait. Donc, une manière d'anticiper un lien qui n'existe pas encore. Alors, vous voyez que ça ne règle pas tout à fait le problème, mais c'est quand même intéressant. C'est que certes, l'auteur de la première page est obligé d'y penser à l'avance, hein, mais il anticipe une autre page qui sera créée par quelqu'un d'autre. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Et par ailleurs, l'autre chose qui permet de sauver le wiki, c'est que finalement, comme il y a un modèle de rôle qui est à plat, n'importe qui peut modifier n'importe quelle page, ce qui va permettre justement de rajouter des liens vers les anciennes pages, vers les nouvelles pages. Vous voyez de quoi je parle, hein, dans Wikimedia, le logiciel de Wikipédia, les liens sont en rouge, alors que là c'était un point d'interrogation, mais c'est le même principe. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à l'époque de ce WikiWikiWeb, son auteur dit ça permet de faire plein de choses. Il y a plein de types d'outils que l'on peut en fait émuler avec un wiki. Du coup, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et finalement, c'est de nos jours qu'il a réussi à dire ce que c'était. C'est finalement la carte émergente d'un nouveau territoire. Et voilà. Donc on imagine qu'en créant ces liens qui pointent vers rien, à chaque fois, on progresse dans l'arpentage d'un nouveau territoire. Alors, l'un des problèmes qui se pose, par contre, et qui se voit beaucoup dans Wikipédia, c'est qu'en fait, c'est bien beau de dire que n'importe qui peut éditer n'importe quelle page, mais ça suppose qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors, vous savez que dans Wikipédia, il y a certaines pages qu'on est obligé de figer, parce qu'il y a trop de guerres d'édition. Alors, sans être très, 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 très surpris, hein, il y a donc le conflit israélo-palestinien, et de manière plus surprenante, il y a la page de Britney Spears, qui est aussi un sujet très très chaud. Donc, l'inventeur du wiki est en train d'inventer, de construire un nouveau type de wiki, qu'il appelle des wikis fédérés. Avec l'idée que finalement, c'est normal qu'on soit pas d'accord, qu'on soit tous uniques, qu'on ait tous un point de vue différent, mais ça ne nous empêche pas de temps en temps de nous mettre d'accord. Donc c'est un système qui ressemble beaucoup en fait à Git, par exemple, pour ceux qui connaissent, hein, des systèmes de gestion de révision, donc avec la possibilité qu'il y ait des versions qui sont concurrentes. Donc là, on voit que sur HyperCard, il y a des versions différentes qui ont été proposées, et ce que vous avez ici, c'est finalement une fusion qui a été proposée. Donc une approche assez intéressante, hein, qui, ne, qui, qui n'oblige pas les gens à se mettre d'accord, mais qui rend possible, par contre, le fait à un moment donné de proposer des fusions, des modifications. Donc aussi avec une approche très, très distribuée à cela, ce qui est assez intéressant, hein, c'est que finalement chacun aurait son propre serveur de wiki, mais que ça n'empêche pas que ces wikis soient fédérés entre eux. Et cette question de la distribution, ben on y revient, elle est très importante, parce que dès lors que vos données sont sur le serveur de quelqu'un d'autre, ben, cette personne a un pouvoir sur votre contenu. Donc avoir un système distribué, c'est aussi donc permettre une égalité de traitement des différents points de vue. Donc ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, hein, c'était deux manières de sauver le web, soit en recentralisant complètement le web, c'est la manière de Google, soit en faisant des îlots dans le web, faire des îlots où sur un site ou un ensemble de sites, on aurait un modèle donc hypertextuel plus puissant. Alors une autre approche, c'est une approche qui est proposée très tôt aussi, en 1995. Donc à une époque quand même où le web n'est pas encore très très connu. Enfin, ça commence à percer le grand public, mais voilà. Donc l'approche est la suivante. L'approche est de dire, bon, ben, le web, il est tel qu'il est, bon... On va considérer que ce sont des contenus. On n'a même pas besoin de son modèle hypertextuel parce qu'il est trop basique. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du navigateur, ben on va fusionner ces contenus avec des modèles hypertextuels beaucoup plus riches. Donc, ils vont nous permettre, ben, par exemple, de dire qu'il y a des fragments qui nous intéressent, de faire des commentaires, etc., etc. Donc cette approche, vous la retrouvez en fait régulièrement. Donc par exemple, un projet chez Google qui s'appelait SideWiki. Donc une extension du navigateur qui permet, ben, donc à chaque fois qu'on va sur une nouvelle page, de demander à un serveur ou des serveurs, si on était dans un système décentralisé. Alors là, c'était un seul serveur, je crois, mais on peut très bien imaginer de dire, ben, je fais confiance à un certain nombre de serveurs, et de récupérer en fait les commentaires qui sont faits sur cette page. Alors les réactions à ce projet sont assez amusantes, hein, parce que beaucoup de spécialistes de la communication d'entreprise et tout ça étaient vraiment hors d'eux, parce que ça voulait dire que n'importe quelle page devenait un peu comme un blog, et donc ils ne comprenaient pas qu'ils n'avaient pas de contrôle sur ça. Mais c'est ne pas comprendre que d'abord, si on n'installe pas ce plugin, les gens ne verront rien, et que de toute manière c'est le principe de la recherche scientifique, de la presse et tout ça, que de commenter des sources. Voilà. Mais ça montre que souvent il y a une incompréhension. Vu que le web a été malheureusement compris comme un système de médias de masse, du coup il y a une incompréhension par rapport à des modes d'interaction qui ressemblent plus au travail intellectuel, justement. Donc, de la même manière, nous travaillons à des systèmes, non pas au niveau des commentaires, mais plus de l'analyse un peu qualitative des contenus. Donc, on a fait une extension qui s'appelle Lazuli, un logiciel d'annotation sociale à l'usage des lecteurs-interprètes, qui vont nous permettre, sur une page, de voir à la fois l'ensemble de ce qui a intéressé les gens. Donc là, c'est le côté un peu sagesse des foules, hein, très web 2.0, où on mélange un peu tous les points de vue, et comme vous l'avez vu juste avant, la possibilité de voir précisément le point de vue de quelqu'un ou d'une équipe. Vous voyez, c'est comme si finalement, sur chaque page web, Il y avait des calques d'interprétation, donc on n'est pas obligé de tous les voir, mais voilà, on peut soit avoir une idée d'ensemble, soit aller voir dans le détail ce qui nous intéresse. Et donc on peut bien sûr créer son propre calque, son propre point de vue. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un nouveau point de vue. Donc c'est mon analyse, voilà. Donc l'exemple que vous voyez là, c'est en fait un... Alors ne regardez pas cette partie-là, parce que c'est... on n'en parlera pas aujourd'hui, hein, c'est pas le sujet. Mais à partir de maintenant, vous avez le droit de regarder. Donc ce que vous voyez là, c'est un travail d'analyse pour nos étudiants donc en système d'information, mais c'est utilisé donc aussi avec des sociologues et conçu avec eux aussi donc pour faire de la vraie analyse qualitative. Donc vous voyez au passage que c'est très bottom-up, hein, comme quand on travaille avec des surligneurs. On ne sait pas forcément ce qui nous intéresse tout de suite. On se rend compte peut-être qu'il y a des choses qu'on avait mises en rouge, en jaune, qui finalement sont plus proches de ça, et on va pouvoir renommer ce qui nous intéresse. Voilà. Donc en guise de conclusion, vous voyez que l'hypertexte, finalement, c'est donc essayer de résoudre le problème de ce couple qui en fait est obligé d'avoir deux bibliothèques avec les mêmes livres, mais parce qu'il les annote différemment. Vous voyez qu'effectivement, c'est assez loin de la perception qu'on a du web, et que finalement, pour utiliser le web pour faire ça, ce n'est pas si facile. Hein. Ça fait des décennies qu'il y a des chercheurs qui essaient de faire ça. Alors, on en fait partie dans un collectif qui s'appelle Hypertopique. Donc, si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie.